The Russian Fortune avec Helmut Schwartz le mercredi soir. La barge russe with Johnny Chivbeck tous les jours 14h. Oh yeah. You got it? Oh, blues will never die. Ils sont là pour vous. Oh yeah, they are.
Barjoïs 1211, dimension de l'illusion. Alors, à propos de du président des États-Unis d'Amérique actuel, la guerre ne le dérangerait pas. Mais ce n'est pas ce qu'il recherche. Depuis mon point de vue, c'est un showman égocentrique qui a besoin d'attirer l'attention sur lui. Et les autres, nous, chères victimes de la presse, pardon, je vous demande pardon, et des réseaux sociaux, je vous invite à réfléchir. C'est fait comme, je réfléchissais à ça à l'instant, Trump, c'est comme... Tu vois, il est conscient, il se sert de la guerre comme d'une arme, quoi. Il sait que tout le monde a les boules. Tout le monde a peur de la guerre. Donc, il brandit le mot guerre. C'est comme quelqu'un, un homme, par exemple, qui va aller tromper sa femme avec une prostituée. Ou non. Mais il n'y aura pas de retour possible. Il l'aura fait. Et bien, la guerre pour Trump, c'est pareil. Le fait de dire « Ah, tiens, je vais t'attaquer. » Mais il ne le dit même pas. Enfin, il n'y a pas de retour possible. Et là, le couple, c'est les États-Unis contre le reste du monde. J'ai un bouquin là, des éditions La Découverte par Marianne Dujarrier, Le travail du consommateur, de McDo à eBay, comment nous coproduisons ce que nous achetons. Donc je vais vous lire plusieurs passages. Consommer nous occupe, fabrique des identités, du lien et des appartenances sociales. Elle est devenue une activité centrale dans l'existence des individus du fait qu'elle nécessite de leur part du temps, de l'énergie physique et psychique et de l'implication émotionnelle. Cependant, la sociologie de la consommation a surtout étudié les modes d'acquisition et d'utilisation des objets, notamment de leur dimension distinctive et symbolique. Elle décrit les multiples manières de faire usage des objets, de se les approprier et de les adopter. Lorsqu'elle est critique, cette sociologie décrit un homme prisonnier des produits marchands, aliéné par eux et par la publicité, qui fabrique une réalité illusoire et désenchantée. Thank you. D'écouter Sally, groupe Gasoline, un groupe post-punk français des années 80. Le premier type de travail réalisé par le consommateur renvoie à des tâches rendues suffisamment simples pour pouvoir être externalisées vers lui. Elles relèvent du travail marchand, faire de la saisie, adapter sa demande à l'offre, de la distribution et de la production, le self-service et l'optimisation des flux, et de l'après-vente, réparer les pannes, gérer les aléas techniques et commerciaux. Dans ce cas, le consommateur réalise seul, à l'aide d'un outil plus ou moins intelligent, un travail opérationnel. Il produit de la valeur pour l'entreprise et remplace partiellement le travail que faisaient des professionnels. Les cas se multiplient de coproduction de ce type, dont la machine à café dans un espace collectif est la forme banalisée. Il s'agit d'une production faite par soi et pour soi, tout en étant prescrite, encadrée, outillée et contrôlée par le fournisseur. Nous la nommons alors autoproduction dirigée. Comment faire travailler un consommateur ? Venez coproduire. Pour faire travailler un consommateur, l'entreprise, comme avec un employé, commence par lui expliquer ce qu'il doit faire. Borne libre-service, gagner du temps, tout simplement. Puis, trois mots se succèdent verticalement. Acheter, retirer, échanger. Avec cette petite brochure colorée disséminée dans toutes les gares, la SNCF incite le client à se rendre aux bornes plutôt qu'au guichet. C'est une publicité non pas pour les produits, mais pour le self-service lui-même. Pour l'indépendance. Enfin, ouais, l'individualisation aussi. On verra ça peut-être un peu plus loin. Maintenant, plus loin, le consommateur roi au service de l'entreprise. Fabriquer le marché et le consommateur. D'un côté, ils affirment que le marketing a pour objet d'agir sur le comportement du client. L'orienter, le façonner, l'influencer, le fabriquer, l'inventer. Le marketing est l'ensemble des méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir dans les lieux publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Donc là, c'est la société qui est formée. C'est ça qu'il dit. Dans cette conception, le marché est une construction sociale. Le marketing, le système, quoi. Le marketing a pour mission de fabriquer des consommateurs et des demandes dans l'intérêt de l'entreprise. Génial ce livre. Mais est-ce que des gens lisent ? Marianne Dujarrier, Le travail du consommateur, et ça a été réédité, enfin, c'est pas très vieux, mais de 2008, puis 2014, puis là, on vient de me le filer, donc. 2014 en tout cas. Depuis les années 1990, la critique de la consommation perd en puissance sous l'effet de la démocratisation du sentiment. Dénoncer la publicité et ses excès est devenu banal et consensuel, ce qui ne l'empêche pas de se développer. Au contraire, les cool blancs, comme les appelle Naomi Klein, utilisent la critique de la publicité dans et pour la publicité. Ainsi, les cultures alternatives, punk, rap, tag, etc., ou critiques deviennent des produits marchands. La consommation peut alors être intense, voire frénétique, et simultanément accusée de tous les maux. Les professionnels du marketing et de la publicité prennent des places organisationnelles élevées. Symboliquement et valorisées financièrement, en même temps que leur activité fait l'objet d'une critique sociale vive. La réflexivité critique sur la consommation est si aboutie que la publicité prospère en faisant sa propre critique. Les publicitaires sont les premiers à dénoncer la publicité. C'est fou, hein. Une image saisissante du phénomène est le visuel d'une affiche sur laquelle pose le mot « homme ». Écrit en grand, le célèbre ex-publicitaire Frédéric Beigbeder, torse nu, avec dans les mains le livre de Jean Baudrillard intitulé « La société de consommation ». Ainsi, celui qui a fait fortune en critiquant la publicité est la publicité, tenant dans ses mains la critique de la publicité. C'est pour ça que j'aime pas du tout Beigbeder, en fait. Là, le mec, il a mis des mots dessus. Je le sens pas. Je l'aime pas. J'aime pas ce qu'il écrit, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il dit. Personnellement, faites ce que vous voulez. Et ben là, il y a une bonne réponse, là. C'est un opportuniste, quoi. À mes yeux. On assiste alors à l'avènement de l'économie de l'expérience, de la consommation expérientielle, dominée par l'enchantement ou le réenchantement, ainsi que le fun shopping. Le marketing expérientiel se présente comme une rupture paradigmatique, prenant appui sur l'idée que le consommateur actuel cherche à vivre des immersions dans des expériences extraordinaires plutôt qu'à rencontrer de simples produits. Selon cette approche, la consommation serait devenue une expérience sensorielle, productrice d'identité et de liens sociaux. Elle est envisagée comme une expérience joyeuse, socialisante, un loisir en soi, visant moins à accumuler des choses qu'à intensifier le vécu. Or, le marketing expérientiel insiste sur la nécessité active du client. C'est lui qui produit son expérience à partir d'une offre et d'une mise en scène faite par l'entreprise. Vous savez, les garanties qu'ils nous proposent dans les grandes surfaces spécialisées, tu sais. Ouais, alors ça, avec ça, t'auras ça et ça. Mais par contre, tu dois payer tant par mois et t'auras... Et en fait, c'est les garanties qui ne marchent pas, quoi. Bon. Et ça, c'est ce qu'il dit un peu là-dedans, quoi. Et après, donc, la participation du consommateur à la fabrication de son expérience suppose qu'il ait davantage de pouvoir. Mais tout ça est une illusion. Dans l'approche, pour désigner la prise de conscience critique de la situation sociale en vue de la transformer. Vous venez d'écouter Madness par Miles Davis. Et là, on va aller dans le chapitre 4, transformation sociale. Là, on a vu que tout ce que fait le consommateur, c'est de la coproduction au fait qu'il soit un consommant et qu'il produit le consommé. Voilà, en gros, c'est ça. Le signifiant et signifié est toujours là. Donc la transformation sociale. La mise au travail du consommateur transforme les relations et les rapports entre les principaux protagonistes de ces configurations sociales, professionnels, consommateurs et concepteurs. La division du travail dans la coproduction déplace les rapports de pouvoir et atténue leur visibilité sociale. Okay. Et là, voilà, c'est là que ça commence à être important, intéressant. Tant que ça marche, ça va. Cette expression tautologique, employée par un jeune homme chargé d'assister les consommateurs qui passent leurs produits au self-scanning, vous savez, quand tu payes les bornes où tu payes dans les grandes surfaces, par exemple, ou dans les épiceries, résume parfaitement l'avantage et les limites d'une automatisation poussée. Lorsque le système fonctionne, voire ronronne, et que le consommateur suit la procédure, la prestation se déroule bien, rapidement, avec même un certain plaisir. Mais lorsqu'un imprévu fait irruption, la prestation est bloquée. Non seulement l'automate ne sait pas s'adapter, mais en plus, rien n'est prévu pour revenir à la procédure normale. Voilà, là, c'est exactement ça qu'on voit avec les États-Unis. Les États-Unis qui couvraient le monde entier, donc tant que c'était le cas, ça ronronnait, tu vois. L'automatisation, c'était automatique, quoi. Ils étaient là tout le temps pour venir. Ils envoyaient des forces militaires, alors pour eux aussi, mais pour nous, on avait la peur, on n'avait pas à s'en occuper, quoi. Mais lorsqu'un imprévu fait irruption, genre Donald Trump, Elon Musk, Vance, etc., lorsque ça fait irruption, bon, c'est surtout Trump, la prestation est bloquée. Ben non, tu peux plus compter sur rien, en fait. Donc, non seulement l'automate ne sait pas s'adapter, donc l'Europe, par exemple, mais en plus, elle n'est pas prévue pour revenir à la procédure normale. Donc, et en plus, ça colle bien avec la consommation, quoi. Ils nous ont donné des consommer l'inutile. C'est en grande partie des États-Unis que ça vient. Et puis, du jour au lendemain, bah hop, on enlève. Donc, on a d'abord enlevé la vendeuse... Après, on met une machine, et puis la machine, on va l'enlever. Voilà. Donc tu te débrouilles. Enfin, on observe une grande inégalité sociale face à la captation marketing. Non pas que les plus riches soient plus résistants à ces filets, loin s'en faut, mais ceux dont les revenus sont les plus faibles payent plus chèrement le fait de ne pas pouvoir y échapper. C'est pas mal ça. En fait, la liberté se paye, quoi. La tentation sera grande de profiter des produits et services supposément gratuits et néanmoins marchands, quitte à se soumettre à un ciblage publicitaire plus intense. Il faut alors rendre à l'évidence qu'il n'existe pas un consommateur, mais plutôt des individus sociaux aux caractéristiques et ressources contrastées face à ce nouveau système productif. C'est quand même pas mal. Ah bah ouais, attends. Et à la fin du chapitre, le consommateur n'accroît ni son autonomie ni son pouvoir face aux marques et aux prestataires. Il est simplement mis au travail avec plus ou moins de bonheur selon les ressources dont il dispose. Mais cette offre de coproduction ne s'impose pas unilatéralement. On observe que certains développent des stratégies nouvelles, non seulement en tant que consommateurs, mais aussi maintenant comme travailleurs. Maintenant, on va écouter. Ouais, on a déjà écouté Madness. On va faire un petit passage dimensionnel. Thank you. Le travail du consommateur n'en est qu'à ses premiers pas. L'extension phénoménale de ces trois configurations de coproduction interpellera les gestionnaires, mais aussi les citoyens, consommateurs et travailleurs, dans leur vie quotidienne. Ils inventeront sans doute de nouveaux destins à ce travail-là. C'est-à-dire que là, je pense que ça veut dire que quand les gens se rendront compte que quand ils sortiront de la masse, quand ils verront leur singularité devant eux, ils seront capables de réfléchir, de se remettre en question vis-à-vis du travail. Et ils seront conscients qu'ils peuvent changer quelque chose, mais intérieurement. Non, parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre, quand même, quoi qu'il en soit. Mais si on dépasse tout ça à partir du moment où on va plus haut dans les sphères, quoi, où on réfléchit. La vie est bien plus agréable quand on réfléchit. Il n'y a pas besoin de prendre une bouteille d'alcool, ni fumer je ne sais quoi, ni quoi que ce soit d'autre.
Oh yeah.
Et autre chose, je pense que Trump n'est pas aussi fou qu'il veut le laisser croire. Je pense qu'il est assez réfléchi, quoi. Un peu comme Poutine, quoi. Bon, je compare pas les deux, mais Poutine est loin d'être fou aussi, hein. C'est tout ça, tout est réfléchi, quoi. Tout est déjà joué, comme je vous ai dit dans la barre joueuse précédente. J'ai regardé une allocation du président Macron hier soir. Bon, on n'apprenait rien de spécial, rien de plus, mais tout est joué, quoi. Peut-être qu'il s'auto-censure, ou bien il y a une censure gouvernement internationale, tu vois. Mais tout est déjà joué. Bon, bah, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, peut-être, mais... What have you seen? I'm trampoline. C'est tous les jours la barge russe à 14h avec Helmut. Helmut Trotz.
What have you seen on drums?